Il y a un an, la France avait basculé dans un confinement dur face à une équation avec une inconnue, un virus, le coronavirus venu d'Asie, que l'on pensait au départ rester tranquillement derrière les frontières.
Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
C'était l'année dernière, Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. Un an après, nous en sommes au troisième confinement. Et désormais, l'équation avec une inconnue est devenue un problème à multiples entrées, les variants, la vaccination, le retour à la normale. Il y a un an, les débats n'étaient pas politiques, tout le monde faisait corps, loin des polémiques. Aujourd'hui, la crise sanitaire est aussi devenue une crise politique. Jean Castex est venu défendre hier devant l'Assemblée nationale et le Sénat les mesures prises, les nouvelles restrictions. Il a fait face à une opposition très remontée qui a largement boycotté le vote final. Ça a été votre cas, Delphine Bagary. Bonjour.
Oui, bonjour.
Députée des Alpes-de-Provence, membre des Nouveaux Démocrates, ça a été votre cas, vous avez boycotté ce vote.
Oui, écoutez, enfin, on a tous dénoncé, et c'est ce qu'on dénonce d'ailleurs depuis un petit moment, hein, un simulacre de démocratie finalement, puisqu'on nous demande de voter des décisions que nous-mêmes nous n'avons pas prises, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, depuis un an. Et depuis un an, alors je ne dis pas qu'il n'y a que les parlementaires, mais les parlementaires sont là quand même pour porter la voix des Français et pour acquiescer ou pour proposer. Et ça, on n'a jamais eu l'occasion de le faire.
Vous rejoignez, l'avis de Jean-Michel Arnaud, hein, le sénateur des Hautes-Alpes, qui lui aussi, hier, a dénoncé un vote sans portée. Et je le cite, puisque tout est déjà décidé par le président et lui non plus n'a pas pris part au vote.
Absolument. Enfin, vous savez qu'il y a les conseils de défense qui ont lieu chaque semaine, et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y en ait, mais depuis un an, on aurait pu quand même élargir et penser à une sorte d'organe de codécision et de décision collégiale qui pourrait allier les corps intermédiaires. Hein, qu'on demande aux syndicats ce qu'ils pensent de cela, que ce soit des syndicats des travailleurs, des syndicats des employeurs, mais quand c'est qu'on demande aux associations de se prononcer, quand c'est qu'on demande, on va prendre des décisions, enfin le conseil scientifique prend des décisions ou en tout cas oriente les décisions qui sont prises après par le président de la République et par ricochet le gouvernement. Et nous, il faut qu'on acquiesce sur des décisions qu'on ne peut pas prendre.
Vous vous sentez un peu parlementaire fantoche ?
Là-dedans, on ne dit pas qu'on dénonce forcément les décisions qui sont prises, même si moi je pense que je pourrais avoir des choses à dire. Mais franchement, on ne sert à rien.
Vous ne dénoncez pas les décisions, vous dénoncez la méthode. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Parlement est fantoche ?
Le Parlement, pour cette question-là, ne sert à rien. Ça, c'est clair. Et moi, je dis qu'il y a un an, il fallait prendre des décisions rapides. C'était important. Il n'y avait pas de souci. Hein. Je pense qu'on était tous dans un état de sidération et qu'on était face à un virus qu'on ne connaissait pas. Et on ne savait pas qui il allait tuer. On ne savait pas s'il allait tuer plutôt les plus âgés, les plus jeunes. On ne connaissait pas sa vitesse de propagation en France. Donc, on ne pouvait pas prendre des décisions. Il fallait prendre des décisions rapides, je vais dire. Maintenant, on n'est plus du tout là. Un an après, on fait encore les mêmes choses. Et le gouvernement nous dit, et les partis de la majorité nous le disent aussi, « Ah ben, vous voyez, on fait un débat ici, dans le Parlement. On vous demande un peu ce que vous en pensez. » Mais non. Donc jamais, on est réduit à des commentateurs, c'est tout.
Vous le disiez, hein, alors moi je ne dénonce pas forcément les décisions qui sont prises, je dénonce la méthode. Mais quoique, je pourrais quand même dénoncer les décisions prises. Lesquelles ?
Oui, alors moi j'aurais aimé avoir pouvoir parler de la stratégie vaccinale, par exemple. Hein, le conseil scientifique a dit qu'il vaut mieux vacciner auparavant les plus âgés, ce sont ceux qui... Il y a le plus haut taux de décès, c'est eux que se propage la maladie le plus rapidement possible, et on l'a vu vraiment dans les EHPAD, et on l'a vu. Du coup, la stratégie vaccinale a été au départ de vacciner non seulement les résidents des EHPAD, mais après que les patients les plus âgés, et c'est comme ça encore maintenant, puisque c'est des personnes de plus de 70 ans qui sont la population cible. Or, les patients ou les personnes qui ont des pathologies associées qui sont à risque. Moi, je pense maintenant qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être réorienter la vaccination vers tous les métiers, toutes les personnes qui travaillent, qui sont en contact avec le public. Et ça, ça me paraît important. Quand vous avez les employés de mairie qui croisent toujours de monde, qui sont toujours au travail, quand vous avez des caissières, on parle beaucoup des caissières, mais des magasiniers aussi, qui sont en contact avec le public, quand on parle des postiers, c'est parmi cette population-là, maintenant, cette population qui travaille, et c'est à cause de ça que le virus se propage.
Donc vacciner selon le métier.
Intéressant de pouvoir, effectivement, les gens qui sont en télétravail, finalement, ils sont en télétravail. Ils vont pas commencer à migrer grand monde, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont plus dans l'entreprise. Les gens qui ne peuvent pas télétravailler, je pense qu'il faudrait pouvoir les vacciner maintenant et réorienter. Voilà. Après, c'est moi qui le pense, mais une fois de plus, je n'ai pas, en tant que parlementaire, les moyens de pouvoir dire si c'est une bonne ou une mauvaise décision, parce que de toute façon, on n'a pas accès ou on a accès a priori à des documents scientifiques, aux avis du conseil scientifique, etc. Mmh. Et on ne peut pas en discuter au Parlement.
Oui, alors, ce conseil scientifique est extrêmement décrié, notamment de la part de Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui s'en donne quand même à cœur joie depuis des semaines, voire des mois. Et hier, il a même dénoncé l'arrogance du conseil scientifique qui ne reconnaît pas ses erreurs.
C'est le conseil scientifique, moi je pense pas qu'il est dans son rôle d'orienter selon les données de la science actuelle, les statistiques, les projections qu'on peut faire. Il est dans son rôle de pouvoir non seulement projeter, mais donner des conseils.
Mais ceci dit, il n'a pas le tort.
Mais un conseil scientifique, c'est un conseil scientifique.
Il n'a pas tort. Politique. Oui, mais Renaud Muselier n'a pas tort au départ. C'est ce qu'il disait. Le conseil scientifique disait, non, les masques, finalement, c'est pas forcément utile. Puis il est revenu sur ses déclarations. Et plusieurs fois, il y a eu des coups d'arrêt sur certaines déclarations, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y avait un véritable trou au sein de la population.
Oui, je pense pas que le conseil scientifique ait dit un jour qu'il n'y ait pas besoin de masque, hein, pour une famille. Mais bon, ça, c'est autre chose. Non, mais ce qui crée du trouble, c'est qu'il y a des fois une dichotomie entre une décision politique et un conseil qu'on peut donner, le conseil scientifique. Mais ça, j'allais dire, c'est le rôle du politique de pouvoir orienter et d'appliquer une politique sur l'échelle, l'échelle dont il a le pouvoir. Maintenant, c'est le conseil scientifique dans son rôle. Moi, j'irai pas critiquer. En revanche, que l'on ne demande pas leur avis appuyé par les avis du conseil scientifique à tous les corps intermédiaires, à tous les citoyens qui sont représentés par les parlementaires, ça, c'est pas normal.
Vous attendiez quoi mercredi soir d'Emmanuel Macron? Vous attendiez ce type d'annonce?
Écoutez,
parce que vous êtes aussi professionnel de la santé, on le précise.
Mercredi soir, j'ai été assez surprise du changement de ton. Un ton un petit peu moins paternaliste et un ton du président qui appelait à la responsabilité individuelle et responsabilité collective. Et je pense que c'était intéressant. Voilà. Mais de fait, les décisions qui sont prises après sont des décisions descendantes et verticales. Et du coup, le ton a changé. Il nous a donné aussi des perspectives, et ça, c'est important. Je veux dire, mi-mai, on va peut-être réouvrir les terrasses, etc. Et ça, moi, je crois qu'on en a besoin. On a besoin d'espoir.
Vous êtes confiante quand il dit, justement, que d'ici la fin de l'été, les personnes de plus de 18 ans qui le veulent pourront être vaccinées, parce qu'on voit quand même que la campagne vaccinale a beaucoup pataugé.
Elle patoche parce qu'on n'a pas de doses. Moi, je le sais, puisque j'ai mis en place les centres de vaccination sur mon territoire. Le problème, c'est pas un problème d'organisation du tout, surtout que maintenant, de façon large, les personnes et les professionnels peuvent vacciner. Le problème, c'est la disponibilité des vaccins. Aujourd'hui, on se heurte à ça. Et ça, on n'y peut pas grand-chose, à la fois. On sait très bien que c'est l'Europe qui a acheté les vaccins, et puis les usines de vaccins ne peuvent pas aller plus vite que la musique, mais là, je suis assez confiante sur la montée en charge, on va dire, de la production des vaccins et de la disponibilité des vaccins pour tous. Du coup, je pense que ça peut être possible, parce que il me semble que là, pour l'organisation a été pensée en amont, on va dire. Hein, ça a été cafouilleux, vraiment, au départ, au mois de décembre. Effectivement, on aurait pu se préparer un peu plus en amont pour commencer la vaccination au mois de janvier de façon un peu plus organisée. Mais là, ce qui manque, c'est des vaccins. Hein. C'est pour l'instant pas l'organisation. On verra.
Et des
après,
bras. Et des bras aussi. Hein. Comme le disait Patricia Granet-Brunello du côté de Digne-les-Bains, il manque aussi des bras parce que les vaccins, on les a, mais on n'a pas forcément les effectifs nécessaires pour pouvoir vacciner.
Ben ça dépend du territoire, parce que chez nous, on a les effectifs et on n'a pas les vaccins.
Bon, et dernière question, Delphine Bagary, est-ce qu'il aurait fallu fermer les frontières? Parce qu'on sait, il y a eu un classement qui a été fait dans les pays pour savoir ceux qui ont le mieux géré la crise sanitaire. Alors, ce n'est pas vraiment le mieux, parce qu'il y a eu des conséquences dramatiques pour tous les pays, mais en haut du classement, on retrouve la Nouvelle-Zélande qui avait décidé de fermer ses frontières dès le mois de mars 2020. Est-ce qu'il aurait fallu fermer les frontières? C'est une question qui revient sans cesse.
Écoutez, moi, je pense pas que la fermeture des frontières soit efficace. En tout cas, ça va à rebours, on va dire, de la façon dont on veut vivre et de la façon dont on envisage les relations à l'autre. Effectivement, vous citez la Nouvelle-Zélande, on peut citer Taïwan également, bientôt le Royaume-Uni. Tout ça sont des îles, hein. C'est plus facile d'isoler une île qu'un autre pays. Après, que dire des transfrontaliers et des personnes qui travaillent, qui vont travailler tous les jours en Allemagne, qui vont travailler tous les jours en Suisse? Est-ce qu'on va fermer les frontières pour eux? Une frontière de pays, c'est une frontière qui est une frontière qui n'est pas physiquement marquée, hors pour les îles. Et moi, je pense qu'il faut faire attention, parce que cette crise, elle est mondiale. Si on va à rebours, on a essayé pendant des années d'ouvrir des frontières, d'avoir des échanges facilités, etc. Et maintenant, on va faire une sorte de repli sur soi, où on va plus accepter l'autre. Et c'est là que pour les humains, d'ailleurs.
Oui.
Vous remarquez que pour les marchandises, il n'y a pas de souci. Les marchandises, la mondialisation, tout ça, ça marche toujours très très bien.
Donc non, la fermeture des frontières, non.
Du coup, moi, je pense qu'on va à rebours de l'histoire en se disant il faut fermer les frontières. Non, et puis c'est pas chacun pour soi. La course pour les vaccins, c'est pas chacun pour soi. Je veux dire, tant qu'on n'aura pas vacciné le monde et que toutes les personnes, tous les humains sur la Terre n'auront pas eu accès aux vaccins, je veux dire, c'est... on ne pourra pas vivre normalement, c'est pas vrai.
Merci beaucoup Delphine Bagary d'avoir été avec nous ce matin dans l'Huit Tranches. Je rappelle que vous êtes députée des Alpes-de-Haute-Provence. Merci.